Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'enfer. Puisque nous avons parlé de la situation intermédiaire, qui était éventuellement le purgatoire, et que la dernière fois, nous avons traité du paradis, eh bien, cette fois-ci, je vais traiter du sujet le plus désagréable, évidemment, qui est celui de l'enfer. Mais désagréable, mais utile. Alors l'enfer, on le retrouve beaucoup dans la Bible, à tous les étages, de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il porte parfois d'autres noms, l'Hadès, le Tartare, le Sheol, la Géhenne de feu, et il est identifié toujours, ou très souvent, au péché et à la mort. Voilà, l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. Et cette séparation d'avec Dieu, il ne faut pas la confondre, cette séparation définitive d'avec Dieu, avec les enfers, qui sont aussi une certaine séparation avec Dieu, mais qui n'étaient pas définitives. Vous savez, quand on dit que le Seigneur est descendu aux enfers, eh bien, ce qu'on vise, c'est le samedi saint, qu'une fois réalisée l'œuvre de notre salut, notre Seigneur, Jésus-Christ, est descendu, on va méditer ça bientôt, dans le lieu qui était une sorte d'enfer, la séparation d'avec Dieu des justes, car les justes qui méritaient de voir Dieu par leurs bonnes actions, eh bien, ne pouvaient le voir en raison du péché originel et de leur péché d'ailleurs qui ne pouvait être pardonné complètement. Et donc notre Seigneur part chercher les âmes des justes dans les enfers, et traditionnellement, c'est représenté par le Saint d'Abraham. Hein, si vous allez à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le portique central à droite, vous verrez sur la colonne, il y a Abraham. On le représente avec un chapeau un peu pointu, surtout une grande barbe et un grand linge qu'il tient comme ça avec les âmes, plein de gens dedans. Et donc, ce sont les âmes des justes qui attendent de voir Dieu. Alors, ça n'a rien à voir avec ce dont je vais vous entretenir, qui est l'enfer. C'est-à-dire le lieu des damnés, le lieu de ceux qui subissent la peine du dâme, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Alors, tout d'abord, je vais m'évertuer à vous montrer que, eh bien, il est partout dans l'Écriture et il est cité de nombreuses fois. Et que, également, évidemment, la tradition nous rapporte l'existence et l'éternité de l'enfer. Pourquoi ? Parce que ce sont deux sujets qui sont discutés, parce que tous les gens aiment bien toujours discuter. Hein, et ils ont raison, ça c'est drôle, mais ils discutent dangereusement souvent et on tente de nous faire croire que oh, soit l'enfer n'existerait pas, soit qu'il serait vide, soit que c'est temporaire, ça va bien finir un jour. Voilà. Eh ben non, voilà. Si vous lisez l'Écriture ou la tradition de l'Église ou le magistère de l'Église, ben vous allez apprendre tout le contraire. Vous allez apprendre que l'enfer existe, qu'il est éternel et qu'il y a en plus vraisemblablement des gens dedans. Voilà. Alors, on ne peut pas citer toute l'Écriture, hein, c'est impossible, parce que, par exemple, rien que dans saint Matthieu, vous avez 30 assertions de notre Seigneur qui illustrent l'enfer. Hein. Je vais vous en donner pêle-mêle quand même quelques-unes, comme ça, pour le plaisir, j'ose dire. Quand notre Seigneur parle de l'arbre stérile et des sarments desséchés qui seront jetés au feu. Hein, c'est Matthieu 3 ou Jean 15. Notre Seigneur, à un autre endroit, parle de la paille brûlant dans un feu qui ne s'éteindra pas. Matthieu 13 ou Luc 3. L'expression « la gêne de feu » vient dans la bouche même du Christ de nombreuses fois. Matthieu 5, Matthieu 10, Matthieu 18, Marc 9, Luc 12. Le Seigneur évoque l'endroit où le ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Marc 9, c'est-à-dire les peines qu'il y a en enfer. Et puis, il rappelle que la voie est large qui mène à la perdition. Matthieu 7. Parle aussi des ténèbres extérieures, là où sont des pleurs et des grincements de dents. Alors, ça m'étonnerait que ce soit le paradis, voyez-vous. Hein, Matthieu 8, ou Matthieu 25, ou Luc 13. Voilà. Il rappelle aussi que, hein, au jour du jugement, Sodome et Gomorre seront jugés moins sévèrement que ceux qui n'écoutent pas ces paroles évangéliques. Matthieu 10, Matthieu 11. Il évoque la fournaise de feu, où les anges jetteront ceux qui commettent l'iniquité. Matthieu 13. Il évoque le feu éternel, Marc 9. Le supplice éternel réservé aux méchants, Matthieu 25. La flamme qui torture le riche qui avait méprisé Lazare et qui est enseveli en enfer, Luc 16, et qui d'ailleurs ne peut même pas communiquer avec la terre. La résurrection des damnés, réservée à ceux qui auront fait le mal, Jean 5. Voilà. Alors vous devriez me dire stop, ça va, on a compris. Alors vous avez des tas de gens qui lisent la Bible et puis qui ne comprennent pas quand même. Voilà. Et puis je ne vous ai cité que des évangélistes, mais j'aurais pu vous citer l'Ancien Testament, je pourrais encore vous citer les lettres de Pierre, les actes des apôtres, l'Apocalypse, juste pour le plaisir un tout petit coup, voilà. L'épître, deuxième épître aux Thessaloniciens, Saint Paul, « Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur souffriront les peines éternelles de la damnation. » Voilà. Voilà. Dans l'Apocalypse, c'est pareil. Hein, les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. C'est très clair, Apocalypse 21, la seconde mort. C'est-à-dire la première, c'est la mort terrestre. Hein. La seconde mort, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Car nous sommes faits pour vivre, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes faits pour vivre ici-bas, mais surtout nous sommes faits pour vivre éternellement, d'une vie éternelle, spirituelle, et l'enfer, en quelque sorte, c'est la mort. Alors si on se tourne vers les pères de l'Église, ben, c'est pareil. Voilà. Dès le début, Saint Clément de Rome, deuxième siècle, faisant la volonté du Christ, nous trouverons le repos éternel. Autrement, si nous méprisons ses commandements, rien ne pourra nous arracher à l'éternel supplice. Saint Irénée de Lyon, tous ceux auxquels le Seigneur dira « Retirez-vous de moi, maudits, allez aux feux éternels » seront damnés à jamais. Bref, je ne peux pas vous faire une lecture, on pourrait pendant des heures et des heures rappeler, jusqu'à Saint Augustin, l'éternelle combustion du feu qui nous brûlera. Eh bien, voilà, toute l'Écriture, tous les pères de l'Église, unanimement, il n'y a pas une seule discordance, nous disent l'existence de l'enfer et nous disent qu'il est éternel. Voilà. Bon, alors, quand même, juste pour se le rappeler, l'Église elle-même, dans son magistère, qui nous dit et qui nous aide, qui donne à croire les vérités de la foi, a toujours été unanime. C'est pareil, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Concile de Latran, tous ressusciteront. Latran IV, au XIIIe siècle, tous ressusciteront avec leur propre corps, qu'ils ont maintenant pour recevoir, selon que leurs œuvres ont été bonnes ou mauvaises, les uns le châtiment éternel avec le diable, les autres une gloire éternelle avec le Christ. Plus proche de nous, le Concile de Florence, pareil, je ne vous le cite pas, je vais vous citer le Concile Vatican II, c'est le dernier en date, des conciles œcuméniques. Dans la constitution dogmatique sur l'Église, eh bien, Lumen Gentium rappelle la doctrine immuable de l'Église. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bienheureux, les bénis de Dieu, au lieu d'être comme de mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l'ordre de Dieu, vers le feu éternel, vers ces ténèbres du dehors, où sont les pleurs et les grincements de dents. Donc le Concile Vatican II, il dit la même chose que tous les conciles qui l'ont précédé. Et voilà. Et Paul VI, dans sa profession de foi, la même chose. Le catéchisme, allez voir, le catéchisme de l'Église catholique actuelle, l'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après leur mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. Voilà. Alors là, je pense que c'est suffisant comme autorité, puisque l'Écriture, la tradition de l'Église et son magistère nous disent la même chose. Mais en fait, si on réfléchit un peu, parce qu'on est venu pour ça quand même aussi, en méditant, c'est évident. C'est évident parce que le péché mortel, c'est-à-dire, heureusement, il n'est pas si fréquent que ça, un péché mortel, un péché grave, fait en pleine conscience, pleine volonté, pleine connaissance, c'est de ne pas vivre avec Dieu. C'est un choix définitif. C'est un choix éternel. Et après un péché mortel, on ne peut pas mériter le ciel. Sinon, par grâce, par pardon de Dieu, évidemment. Hein. Voilà. Évidemment, c'est... La question, c'est la question de la liberté qui est derrière. La question de l'enfer, elle ne vaut qu'en raison de la question de la liberté. Est-ce que, oui ou non, ce que je fais sur cette terre a une importance, a un sens ou pas ? Voilà. Alors, si vous répondez oui, ben, ça veut dire qu'il y a le paradis et l'enfer. Si vous répondez non, tout ça n'a aucun sens. Hein, bon, alors après, vous pouvez postuler ce que vous voulez. Mais libre à vous d'être des insensés, c'est-à-dire n'avoir pas de sens, savoir pas où vous voulez aller. Moi, je sais où je veux aller. Je veux être heureux. Je veux vivre pleinement ma vie, vivre, et donc vivre avec Dieu au paradis. Alors, je vais vous commenter une petite chanson. Vous voyez, c'est pas très théologique, hein, mais une petite chanson qui s'appelle « On ira tous au paradis ». Voilà. Parce que elle est assez gratinée, figurez-vous. Et dans tous ces... Je ne veux pas tout commenter de la chanson, mais dans plusieurs de ces passages, on dit pas mal de choses idiotes. Et alors, donc je vais vous citer, « On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. » Et un peu plus loin, « N'ayez pas peur, ne crois pas ce que les gens te disent, ton cœur est la seule église, et n'aie pas peur des flammes de l'enfer. » Alors je vais commenter les quatre. Parce que les quatre... C'est pratiquement diabolique. Je dis que c'est pratiquement diabolique parce que c'est une véritable erreur, mais qui est faite très habilement. Pourquoi ? Parce que comme tous les vrais mensonges du diable, la première proposition est presque juste. Mais un gros mensonge, quand on voit tout de suite que c'est un mensonge énorme, personne ne le croit. Le vrai mensonge vraiment dangereux, c'est le mensonge dans lequel on a mis un petit peu de vrai pour que ça soit crédible. Et là où il y a un petit peu de vrai, c'est dans la première phrase, « On ira tous au paradis ». Alors d'abord, c'est très sympathique. Quand j'entends ça, je suis tout de suite rassuré. « On ira tous au paradis ». Ah, ça, c'est chouette. Bon, donc tout va bien, déjà, j'ai le cœur léger. Le propos est bon. Et pour que la phrase soit juste, il manque une toute petite chose, mais qui est énorme. C'est ma liberté. On peut... aller tous au paradis. Ça, c'est vrai. Tous ici, autant qu'on est, si on veut, si on le fait, on peut aller au paradis. Voilà, c'est ça la vérité. Et si on le veut, tous ici, on peut aller dans le 6e arrondissement tout à l'heure. Ben, je crois qu'il n'y a que moi qui irai. Alors, évidemment, j'ai pris ça comme comparaison, parce que je sais que je vais, pas au 6e. Ben, c'est-à-dire que vous irez où vous voudrez. Alors ici, tous, autant qu'on est, on peut aller au paradis, c'est vrai. Mais on ira si on veut. On ira si mon cœur m'y pousse, si ma volonté m'y pousse et mes actes. Parce que ce n'est pas une idée dans la tête, le paradis, c'est une réalité. Et donc, c'est mes actes réels qui me mènent au paradis. Vous voyez, si vous dites, oh, ben, j'irai bien tout à l'heure dans le 6e, ça ne suffit pas pour y aller. Il ne suffit pas de vouloir aller au paradis pour y aller. Il faut y aller. Il faut le faire. Et donc, ma liberté, elle importe. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Ça s'appelle la liberté humaine. C'est même une bonne nouvelle, figurez-vous, mes frères, que l'enfer existe. C'est une très bonne nouvelle. C'est la preuve que c'est librement que je vais aller au paradis, que c'est un acte libre où ma coopération compte. Dieu m'attend. Dieu attend parce que c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour de croire en Dieu et d'aller au paradis. C'est pas automatique. Je ne suis pas une bestiole comme ça que le bon Dieu a créée, puis quand elle sera morte, pouf, il la foutra au paradis. Mais non. Le paradis, c'est la plénitude de l'expression de mon être, c'est la plénitude de mes actes. Eh bien, tous les jours, je m'y attelle. Hein ? Si vous voulez aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, c'est la mode. Hein ? Eh bien, il faut marcher, marcher, marcher. Il ne suffit pas de s'asseoir sur le bord de la route en disant « on ira tous à Compostelle ». Ben non, on n'ira pas tous. Si tu ne marches pas, tu n'y arriveras pas. Ben, on n'ira pas tous au paradis si on ne marche pas, si on ne fait pas le bien. On ne vivra pas du bien. Oui, c'est complètement crétin de penser l'inverse. C'est idiot. C'est raisonnablement idiot. C'est déraisonnable, quoi. Et alors, la deuxième phrase est pire. Hein. On ira tous au paradis, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction, le bien ou le mal, c'est pareil, ça n'a pas de sens. C'est là où on voit la queue du diable. Parce que la première phrase, elle était sympathique. Il y avait une petite erreur, mais elle était très sympathique. Mais la deuxième, elle est vraiment perverse. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, c'est pareil. Hein, mais non, c'est pas pareil. Mais écoutez, tout à l'heure, je vais vous bénir. Si à la fin de la messe, je vous maudissais, ce serait pareil? Mais ce serait pas pareil du tout. Les gens qui vous disent bonjour, qui vous apportent des fleurs, qui je sais pas quoi, c'est pas la même chose que les gens qui vous insultent, qui vous jettent des pierres quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bénir et maudire, ça serait la même chose. Mais non, c'est une erreur. C'est une erreur grave. Hein? Oui, ça c'est une entourloupe. Oh, qu'on soit béni, le bien, le mal, vous savez, tout ça, c'est pareil. C'est une question de... Non, non, c'est pas dans la tête. Hein. Si je vous donne 50 euros ou si je vous vole votre porte-monnaie, c'est pas pareil. Il y a un bien et il y a un mal. Dans le premier cas, je vous fais un bien. Dans le deuxième cas, je vous fais un mal. C'est pas pareil. Le bien et le mal ne sont pas identiques. Le bien, c'est la plénitude de l'être qui me mène au bonheur. Le mal, c'est une privation de bien qui ne peut que m'emmener à mon malheur. Et le bonheur, le malheur, c'est pas dans la tête. Hein. Mais la plénitude, c'est quelque... Si vous n'avez pas vos deux jambes pour marcher, ben vous ne les avez pas. Si vous avez vos deux jambes pour marcher, ben, c'est un bien. Sinon, c'est une privation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire croire aux gens que la bénédiction ou la malédiction serait la même chose? Mensonge. Alors, on ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, et on continue. Hmm? Ne crois pas ce que les gens disent. Ton cœur est la seule église. Oh, c'est mignon. Hein? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mon cœur est la seule église? Ça veut dire, là encore, il y a un petit quelque chose de juste. Bien sûr que c'est dans mon cœur que je détermine ce qui est bien ou pas bien. Ça s'appelle ma conscience. Mais l'église, c'est le contraire de la solitude. Hein. L'église, c'est le rassemblement. L'ecclésia, c'est la convocation de l'ensemble du peuple chrétien. Mais moi, au paradis, je ne veux pas vivre tout seul dans l'éternité. Hein. C'est pas ça, le bonheur. De vivre tout seul jusqu'à la fin du monde, c'est ça le bonheur? Ben, j'en veux pas. C'est cette histoire. Mon cœur n'est pas la seule église. L'église, c'est là où mon cœur va trouver sa place. C'est là où je suis convoqué. Ici-bas, c'est là où je suis prêtre. C'est là où vous êtes convoqué au Saint-Sacrifice de la messe. C'est ça, l'église. Hein? C'est pas un lieu tout seul. Ça s'appelle un cachot, un lieu tout seul où je vais finir ma vie, oui. Le diable est menteur. Il est menteur depuis le début. Hein? Allez, viens. Viens, tu seras tout seul dans une boîte comme ça. Oui, bah, tu seras enfermé dans un cachot, oui, si tu crois à ces débilités. Hein? Méfiez-vous. Hein? Méfiez-vous. À force de dire des bêtises, on les fait. Et à force de les croire, on y va. Cœur est la seule église. N'aie pas peur des flammes de l'enfer. N'aie pas peur, mon enfant. Hein? Dans le livre de la jungle, c'est ce que dit le serpent, petit enfant. Fais un somme. Et confiance, mon enfant, dors. Ben, c'est parce qu'il veut le bouffer, oui, vous le savez. Hein? Il lui veut du mal. Hein? Il veut le manger. Mais c'est le diable qui nous dit ça. N'aie pas peur des flammes de l'enfer. Alors oui, d'accord. Hein? Le but, c'est pas de faire peur aux gens. Encore que hein, la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse, il paraît. Hein? C'est sûr, ça, c'est comme si pour passer le feu rouge, vous savez, il faut pas passer le feu rouge, ça vous le savez. Quand on est en voiture, on ne passe pas au feu rouge. Pas à pied non plus, mais c'est encore plus dangereux en voiture. Alors, on ne passe pas au feu rouge, évidemment, pour des raisons supérieures. C'est parce qu'on on ne veut pas faire du mal aux autres, parce qu'on sait que les autres vont passer au feu vert. On ne passe pas au feu rouge aussi, tout simplement parce qu'on respecte la loi. Et que quand on est, voilà, on aime à respecter la loi. Peut-être que parmi nous, il y en a qui ne passent pas au feu rouge simplement parce qu'ils ont peur de se faire attraper par la police. Alors d'accord, c'est peut-être pas le plus haut comme sentiment. Ben, c'est déjà pas mal. Parce que quand même, le plus important, c'est de ne pas passer le feu rouge. Voyez-vous ? Et donc, l'enfer, ce n'est pas fait pour vous faire peur. C'est pas fait. Vous voyez, quand je pense à l'enfer le soir, je me dis, oh là là, je ne suis pas en train de trembler de tous mes membres, etc. Hein ? Mais Dieu m'avertit. Parce que justement, Dieu n'est pas un séducteur qui me dit, mais vas-y, ne t'inquiète pas, ferme les yeux. Il y a un trou. Dieu me dit au contraire, ouvre les yeux, attention, il y a un trou. Est-ce que vous avez déjà pensé, quand vous roulez sur la route, que c'est marqué stop, travaux, trou béant, faites attention. Vous êtes d'aller téléphoner à la préfecture en disant, oh, pourquoi vous faites peur aux gens comme ça? C'est pas bien. Ben non, au contraire, vous dites, bah ça c'est sympa, ils sont gentils de nous prévenir qu'il y a des travaux et qu'on risque de tomber. Vous voyez? Alors, je ne vois pas pourquoi, quand on dit aux gens, bah, attention, parce que votre âme, elle est précieuse, et vous pourriez tomber éternellement. Faites attention. Mais l'Église nous dit ça, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous garder dans le bien, pour nous avertir, pour ne pas nous prendre par surprise. Voici que je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, choisis la vie. L'Église nous prévient, l'Écriture, là, nous prévient de choisir la vie. Mais parce qu'il y en a qui ne choisissent pas la vie. Voilà. Alors, vous entendrez encore d'autres idioties. Hein, ah bah, des idioties, de toute façon, ça ne manque pas beaucoup. Hein. Alors, il y a des gens, toujours, les gens sont plus malins, des gens qui vous disent, oui, alors, attention, hein, l'Église n'a jamais dit de quelqu'un qu'il était en enfer. Alors, ça se trouve, il n'y a personne en enfer. Mais c'est pas vrai. Alors, c'est toujours, encore une fois, un mensonge. Donc, il y a un petit peu quelque chose de vrai. L'Église n'a jamais pris une autorité en disant « Je sais que monsieur machin est en enfer ». C'est vrai. Pourquoi ? Parce que l'Église abandonne à la miséricorde de Dieu tout le monde. Et donc, elle... Alors, mais ceci dit, l'Église... Alors, l'Écriture elle-même sait qu'il y a des gens en enfer. C'est d'abord, il y a le diable, ses anges déchus, et très fréquemment, hein, on parle de ceux qui sont des âmes parquées pour les enfers. Donc, on sait très bien qu'il y a des gens en enfer. Alors, je ne vous compte pas tout, Sainte Thérèse d'Avila, les enfants de Fatima, Padre Pio, le curé d'Ars, tous les gens qui ont ou vu des gens en enfer ou qui ont su que des gens étaient en enfer. Donc, on est sûr qu'il y a des gens en enfer. Alors, c'est vrai, l'Église ne s'est jamais engagée, comme elle s'engage pour les saints, à dire, bon, on a fait une enquête, on s'est donné beaucoup de mal, on a eu un miracle, alors maintenant on sait que telle personne est au ciel. Voilà, c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait pour l'enfer. Mais ce n'est pas parce que c'est pas parce qu'on ne l'a pas fait que ça n'existe pas. Tout porte à croire le contraire. Alors, vous entendrez donc une autre bêtise. Alors là, plus fine, plus théologique, donc des gens plus intelligents, parce que quand on est bête, on dit des âneries bêtes, et puis quand on est intelligent, on dit des âneries intelligentes. Bon, ouais, c'est pas intelligent, mais c'est plus recherché. Alors vous avez des gens qui ont bien cherché, puis qui ont dit, bon alors oui, effectivement, oui, ça si je lis l'Écriture, si je réfléchis, il y a forcément, voilà, il y a Dieu, et il y a une séparation d'avec Dieu, donc l'enfer. Mais, rassurez-vous, il n'y a personne dedans. Alors, on ne sait pas d'où il tire ça, hein, espèce de raisonnement. Il n'y a personne dedans parce que Dieu est miséricordieux. Ben, oui, je suis d'accord, Dieu est miséricordieux. Mais Dieu pardonne. Ben, il pardonne à qui demande pardon. Il pardonne à qui accepte d'être pardonné. Il pardonne à qui veut le pardon. Vous avez tous déjà fait l'expérience de gens peut-être avec qui vous vous disputez. Vous êtes fâché et vous êtes prêt à pardonner, mais il n'y a rien à faire et les gens ne veulent pas se raccommoder. Hein. C'est la nature humaine. Il n'y a pas de déterminisme absolu. Et donc, on a des déterminations diverses, mais ma liberté reste pleine et entière et je dois coopérer au bien pour vivre. Alors, je crois que j'en ai assez dit. Il me reste juste à mentionner quelles sont les peines de l'enfer. Il y en a deux types. Il y a la peine des sens et la peine du dâme. Alors, on va essayer de regarder ce que ça veut dire. Hein ? La peine des sens, c'est ce qu'on représente, parce que c'est ce qui est le plus facile à représenter. Alors ça, l'imagination est fertile. Hein ? Vous avez vu des centaines et des centaines de tableaux qui représentent l'enfer, donc qui représentent le feu, parce que c'est ce qui est le plus biblique. Et puis après, vous avez des gens qui sont pleins d'imagination, qui représentent des diables en train de torturer des gens, de leur arracher la tête, les genoux, bref, de leur faire du mal. Et donc, les peines de l'enfer, en fait, elles sont multiples. Hein. Et donc, on ne peut pas les décrire, en fait. La parole de Dieu a coupé en deux la flamme, la rétribution des actes et la lumière produira une brûlure douloureuse pour ceux qui ont mérité un châtiment. C'est les psaumes que je cite. Et alors on parle de la tempête des ténèbres dans l'épître de Jude. Bref, un opaque brouillard, dit saint Thomas d'Aquin. Un opaque brouillard où on étouffera. Donc ça évoque certainement la brûlure du feu, mais aussi le fait qu'on soit enfermé. Un déluge d'âmes accompagné de démons. À la seule vue de Lucifer, elles s'enfoncèrent dans les antres. Mais elles voyaient toujours le diable. C'est le père Désiré des Planches. C'est la vie de sainte Véronique Giuliani qui a vu l'enfer. De nombreux saints ont vu l'enfer. Et les enfants de Fatima, hein, ils ont vu l'enfer une fois. Ils ont vu les âmes descendre en enfer une fois. Tous les jours, ils faisaient des sacrifices terribles, hein, avec des chaleurs incroyables au Portugal. Ils refusaient de boire ou de manger. Hein. Et Jacinta disait toujours, c'est pour les âmes de l'enfer que je prie. Voyez, pour alléger leur peine. Pour que les âmes ne descendent pas en enfer. Hein, si on avait une toute petite conscience que on peut vraiment souffrir éternellement d'une souffrance inégalable de celle dont on souffre ici. Parce que tous nos sens seront touchés, tous à la fois, sans exception, avec une violence extrême. Hein, vous savez, on a de la chance, parfois on a mal aux pieds, on a pas mal à la tête en même temps. Mais, bon, parfois si, bon, on a pas mal aux reins en même temps. Bon, ben là, on aura mal partout. Enfin, ceux qui y sont, j'espère bien ne pas y être. Hein. Mais un mal absolu de tout, un feu dévorant, incessant, qui n'arrête jamais, qui croît toujours en intensité, pas de répit. Voilà la peine des sens, hein, qui touchera tout, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tous les organes spirituels, mon âme, ma volonté d'aimer, ma connaissance du bien, tout sera touché, et mon intelligence, et mon cœur, et tout. Une peine horrible. Mais figurez-vous, tout ce que je viens de vous décrire, c'est encore le plus sympathique. Ah oui, parce que, dit saint Thomas, ces peines font oublier l'essentiel. C'est la séparation d'avec Dieu. Et la peine la plus affreuse, hein, c'est la séparation du bien. Qui est le fruit du péché, l'aversion à Deo, hein, l'aversion de Dieu et la conversion aux créatures. Ceux qui s'attachent aux créatures vivront comme des créatures seules, sans Dieu. C'est-à-dire, il va leur manquer l'essentiel, l'âme. Hein. La privation du bien infini qu'est Dieu. Et c'est une privation infinie. Alors ça, c'est même pas représentable. C'est un déchirement intérieur, c'est l'âme déchirée en deux. Vous qui entrez ici, quittez toute espérance. C'est Dante, début de l'enfer. Il n'y a pas d'espoir. Plus aucun espoir. Vous voyez, même dans notre plus grand désarroi, on espère toujours une petite amélioration. Plus rien. Pas d'amélioration possible. L'espoir sera fini. La foi n'est plus possible. La charité non plus. Dieu n'est plus là. C'est ce qu'on a voulu. La séparation totale. On devrait pleurer en pensant que c'est possible. L'adieu à la lumière. Nos yeux ont été faits pour voir. Et on ne verra plus. Notre cœur est fait pour aimer, on n'aimera plus. Notre âme est faite pour s'élever, on s'abaissera. Notre intelligence est faite pour penser, elle tombera sans cesse, d'erreur en erreur. Bref, retirez-vous de moi, maudit, au feu éternel. Matthieu 25, parole dure du Christ. Alors, si je vous ai raconté ça, parce que c'est quand même un peu effrayant, enfin moi, ça m'effraie rien que de raconter, hein. Oui, mais c'est bien. De temps en temps, il faut voir la réalité en face, quoi. Je ne vous ai pas dit ça pour vous faire peur, je vous ai dit ça pour vous prévenir. C'est par amour. C'est par amour pour vos âmes. Et dites-le à vos amis. Alors n'oubliez pas, vous voyez, parce qu'aujourd'hui je vous ai parlé de l'enfer, n'oubliez pas de leur dire aussi l'extraordinaire bonheur du paradis dont nous avons parlé. La joie sans fin, le bonheur sans nombre des élus. Mais dites-leur la vérité, dites-leur que s'ils n'en veulent pas, c'est l'enfer. Comment douter de l'enfer quand on voit de la méchanceté des gens, parfois, hein ? Alors, exhortons-nous au bien, nous sommes appelés, nous avons été faits. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que c'est si affreux l'enfer, parce qu'on n'a pas été fait pour ça. On a été fait pour vivre de Dieu. Et la vie éternelle, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, elle est déjà commencée ici-bas. Donc, la vie dont je vais vivre éternellement, c'est celle que je commence déjà ici, que je commence dans mon corps, et que je parferai dans l'éternité. Alors, c'est très joyeux de savoir que maintenant, moi, je désire le ciel, j'essaye, je coopère à mon petit niveau, hein, parce que c'est pas moi qui vais faire le ciel, heureusement. Il ne serait pas terrible, terrible. Mais je coopère tout gentiment, voilà, jour après jour, à m'éloigner de ce mal absolu qu'est la privation de Dieu et qui est l'enfer. Priez, priez pour les âmes, priez comme les enfants de Fatima, qu'elles ne tombent pas en enfer. Amen.